With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 27 avril 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
Bonjour Xavier, ici Mathieu, vivant à Shanghai en Chine depuis 8 ans avec ma femme américaine qui est enceinte de 7 mois et demi et ma petite fille de 19 mois. Donc on est en confinement depuis le 31 mars. C'est un peu stratosphérique ce qu'on vit ici. Enfin, on a l'impression d'être dans un roman d'Orwell, on est dans 1984, dans tous les scénarios dystopiques qu'on voit avec un pouvoir totalitaire fort. Dans le sens, on peut vraiment pas sortir de chez nous, du fait que nous on était positif, tout notre immeuble aussi est cantonné. Même pour ouvrir ma porte, quand on fait des commandes de nourriture ou d'eau, il faut que je demande l'approbation du comité de voisinage, qui est dirigé par un membre du parti, et le comité de quartier, qui ont fait leur réapparition depuis 45 ans, ils avaient disparu, donc on a vraiment...
La dernière fois qu'on a parlé de la stratégie chinoise anti-Covid dans La Loupe, je vous citais La Peste, le roman d'Albert Camus. À en croire le message de cet expatrié français de Shanghai, je pourrais désormais vous lire du George Orwell, qui décrit une société totalement sous le contrôle de Big Brother.
Dès que quelqu'un sort, par exemple pour balader son chien ou quelque chose comme ça, il y a toujours un ou deux voisins qui vont prendre des photos et appeler le 1, 2, 3, 4, 5, qui est le numéro du comité de quartier pour les dénoncer. Quoi.
En Chine, il s'agit désormais d'empêcher le moindre citoyen ou le moindre étranger d'échapper aux tests et aux quarantaines obligatoires. La stratégie zéro Covid poussée à l'extrême suscite une contestation inédite et met en danger l'économie du pays. Pourquoi la Chine n'y renonce-t-elle pas? C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Pour comprendre comment Pékin est passé de Camus à Orwell, j'ai convoqué deux experts, non pas de littérature, mais de la Chine. Je suis en studio avec Cyril Puyette, chef adjoint du service Monde de l'Express et spécialiste de l'Asie. Salut Cyril.
Salut Xavier.
Et on va se connecter avec Pékin pour retrouver notre correspondant Sébastien Lebelzik qui, tiens, vient de me laisser un message.
Xavier, j'ai un petit souci, je serai dispo dans une petite heure, je dois absolument aller faire un dépistage en bas, c'est obligatoire et je ne peux pas attendre la fin de l'enregistrement, donc ce sera vers 11h, je peux te faire un message quand je reviens, hein. Désolé, hein. Je viens juste de l'apprendre.
Ça y est, on te retrouve Sébastien. J'allais te demander si toi aussi à Pékin, tu étais soumis à des mesures restrictives liées au Covid, mais visiblement c'est le cas.
Oui, bah si tu m'avais posé la question il y a exactement 24 heures, je t'aurais dit la vie est totalement normale ici, il n'y a pas de souci, juste un petit vent d'inquiétude, mais effectivement, juste avant d'enregistrer ce podcast, on a reçu un message des comités de quartier pour nous dire qu'il fallait absolument nous faire dépister. C'est vrai qu'on sentait un petit peu l'inquiétude ici, parce que avec les images de Shanghai, ce qui se passe sur place, c'était difficile d'imaginer qu'on ne serait pas un jour concerné. Il y a 22 cas au dernier recensement à Pékin, 22 cas d'Omicron. C'est pas beaucoup, hein, c'est 1000 fois moins que Shanghai, mais du coup, on s'est mis en mode lutte contre le Covid avec donc ces tests PCR obligatoires pour tout le monde, pour les écoliers, et puis donc des limitations de déplacement.
Sébastien, tu cites Shanghai dans son message. Mathieu nous racontait aussi qu'il avait eu peur d'être séparé de sa famille lorsqu'il a été testé positif.
Oui, c'est vrai que tout le monde vit dans la peur que d'être dépisté positif, et on vient de chercher au milieu de la nuit, en fait. On les surnomme les Daba ici, hein, les géants blancs. Ils arrivent en tenue intégrale de protection, ils tambourinent sur la porte. Ça peut arriver à 23h30, minuit. Et là, on vous embarque, on vous met dans des bus et on vous emmène dans ces centres de quarantaine. C'est des vraies nouveautés ici. Ils ont construit des sortes d'immenses centres de quarantaine avec des dizaines de milliers de lits qui sont alignés comme ça, avec des demi-cloisons. Il n'y a même pas de douche ni de savon. Ça ressemble presque à des léproseries, hein, où on isole tous ces gens qui sont juste, pour la plupart, asymptomatiques. Donc tout ça, c'est absolument terrible, hein. On voit ces vidéos qui circulent sur Internet. Alors, pas sur l'Internet chinois, parce qu'évidemment, tout ça, c'est censuré, mais beaucoup sur Twitter, ici, grâce à des VPN, en fait, qui permettent de passer la censure. Il y a même des mesures quand même extrêmes, hein, absolument horribles. On tue les animaux domestiques dans la rue, on sépare les familles, les enfants. Il y a cette histoire aussi d'une petite fille de 12 ans, hein, qui était toute seule dans un centre de quarantaine, et quand elle a été libérée, hein, eh bien, elle a dû rentrer chez elle à pied. Elle a fait 50 km. C'est absolument fou. Hein. On a du mal à se rendre compte, hein, mais 26 millions de personnes, hein, qui sont comme ça enfermées chez elles, surveillées avec des drones, hein, qui passent entre les immeubles, qui disent aux gens ne manifestez pas, n'ouvrez pas les fenêtres. Ça donne une ambiance vraiment. C'est un film de science-fiction, mais un film noir. Hein.
Oui, à t'entendre, la comparaison avec un monde orwellien n'est pas exagérée. Est-ce que les habitants de Shanghai ont une perspective de sortie de confinement ?
Non, pas du tout. C'est ça aussi qui les inquiète. Au départ, on avait annoncé 4 jours de confinement, mais ça dure depuis déjà plus d'un mois, et même 2 mois pour certains quartiers. Et les cas restent très importants, hein. Donc ça paraît un peu compliqué de rouvrir la ville. Alors il y a certains quartiers, quand il n'y a pas eu un seul malade pendant 14 jours, certains quartiers commencent à rouvrir, mais ça veut dire justement juste une rue ou quelques épiceries, hein, qui rouvrent, mais c'est extrêmement limité, hein. Quand on arrive à descendre dans la cour de son immeuble, c'est déjà apparemment un exploit. Donc la nourriture, en fait, est livrée par les comités de quartier, hein. Vous savez, c'est les auxiliaires du Parti communiste, mais c'est aléatoire. Il y a des gens qui n'ont reçu qu'une ou deux fois des provisions, et puis il n'y a pas d'eau le plus souvent, par exemple. Donc on leur demande de faire bouillir de l'eau, mais l'eau n'est pas potable en Chine. Donc c'est extrêmement inquiétant. Et c'est fou, hein, parce que Shanghai, c'est quand même la vitrine de la Chine. C'est la capitale économique du pays, c'est la deuxième place financière d'Asie. Voilà, mais si on parle beaucoup de Shanghai, c'est parce que, évidemment, c'est la partie la plus visible. Il y a beaucoup d'étrangers, donc il y a beaucoup de vidéos, hein, qui circulent sur Twitter, sur les réseaux sociaux étrangers, mais c'est uniquement la partie la plus visible de ce qui se passe actuellement en Chine.
Si tu dis la partie la plus visible, Sébastien, c'est parce qu'il y a une autre partie de la Chine qui vit la même chose et dont on entend moins parler.
Oui, effectivement, hein, ce confinement, ça concerne 373 millions de personnes en Chine, hein, c'est plus du quart de la population, et c'est absolument incroyable, hein. Il y a des villes entières comme Changchun, dans le nord de la Chine, ou Jilin, qui sont confinées depuis plus de 2 mois, et là, on a très très peu de vidéos, très peu d'informations sur ce qui se passe, mais ça paraît là aussi très très compliqué. Alors, au-delà des problèmes d'accès à la nourriture, au-delà du fait que les gens ne peuvent plus travailler, donc ils n'ont plus de revenus, il y a aussi des conséquences vraiment dramatique pour la santé des gens, parce qu'il y a très peu de gens qui meurent du Covid, mais il y a beaucoup de gens qui meurent à cause de cette politique anti-Covid. Il y a par exemple une infirmière à Shanghai qui est morte devant l'hôpital où elle travaille. Elle est morte d'une crise d'asthme parce qu'ils n'ont pas voulu la laisser entrer parce qu'elle n'avait pas de test récent anti-Covid. Il faut attendre 6 heures pour avoir les résultats, et donc en 6 heures, elle est morte. Ça s'est passé pour également des gens qui attendaient un bébé, qui ont perdu leur bébé, des gens qui ne peuvent pas se faire soigner leur diabète, donc ils ne peuvent pas avoir leurs injections et qui sont mortes. Enfin, tout ça prend des mesures arbitraires et brutales que vraiment plus personne ne comprend ici.
Des mesures extrêmes aux conséquences parfois dramatiques, on l'entend. Est-ce qu'on sait au moins si elles permettent d'atteindre l'objectif affiché, à savoir limiter la propagation du virus ?
Alors, c'est un peu compliqué parce que jusque-là, c'est vrai qu'on avait vu des résultats plutôt efficaces à Shenzhen, où le confinement a duré une dizaine de jours seulement. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi à Shanghai, ça ne marche pas, puisqu'on est à plus de 20 000, 22 000 cas quotidiennement. Ça fonctionne dans une certaine mesure, mais ça ne pourra pas fonctionner tout le temps, puisque l'impact sur la population, l'impact sur l'économie est absolument incroyable, quoi, très très important.
Là, je me mets à la place de nos auditeurs qui sont en France, en Europe ou en Amérique du Nord, pour lesquels le confinement semble bien lointain. Ici, on n'a presque plus de restrictions. Cyril, pourquoi la Chine impose-t-elle encore des mesures aussi draconiennes plus de 2 ans après le début de la pandémie ?
Il y a d'abord une raison politique, c'est que depuis le début de cette pandémie, la Chine assure que la stratégie zéro Covid, c'est la meilleure stratégie, celle qui lui a permis jusqu'à maintenant d'avoir un taux de contamination et de mort très bas par rapport au reste du monde, et que cette stratégie prouve la supériorité, en quelque sorte, du régime communiste par rapport aux démocraties. Et donc ce discours, ce narratif a tellement été martelé comme une raison de la supériorité du régime chinois qu'il est impossible d'en changer maintenant pour le régime, surtout qu'on est dans une période très politique, à l'approche du 20e congrès du Parti communiste, à l'automne prochain, où Xi Jinping sera reconduit pour un troisième mandat à la tête du pays. Donc c'est pas le moment de changer de stratégie. D'ailleurs, Xi a récemment réaffirmé qu'il continue dans cette voie-là.
Donc c'est uniquement pour une question politique que la Chine pratique cette stratégie extrême du zéro Covid ?
Non, pas uniquement. Il y a d'autres raisons, évidemment, purement sanitaires. La première raison, c'est que, visiblement, les vaccins chinois ne sont pas aussi efficaces que les vaccins occidentaux à ARN messager. L'autre problème, c'est que la population chinoise âgée, les plus de 80 ans, ne sont pas assez vaccinés. En gros, environ la moitié, simplement, est complètement vaccinée. Et puis, il y a derrière un système de santé qui n'est pas assez solide, qui ne serait pas assez solide pour absorber une vague épidémique très violente qui toucherait ces personnes âgées, justement. Donc, c'est pour éviter un chaos dans ce contexte de vaccins pas assez efficaces, de manque de vaccination et dans une période politique très sensible que la Chine préfère faire ceinture et bretelles avec son zéro Covid.
Tu nous expliques que cette stratégie est liée au contexte politique, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça se retourne finalement contre le pouvoir chinois et Xi Jinping ?
L'emprise du pouvoir chinois sur la population reste quand même très fort. D'ailleurs, son contrôle sur la population s'est encore accru, qui était déjà très important, s'est encore accru avec cette pandémie. Et toi, Sébastien, quand tu discutes avec des Chinois autour de toi à Pékin, est-ce que tu as l'impression qu'ils sont de plus en plus critiques avec cette stratégie zéro Covid ? Tu sens un mécontentement grondé ou bien ils acceptent docilement ?
Écoute Cyril, non, ils sont de moins en moins dociles, hein, les Chinois. La situation se crispe, hein, on le voit tous les jours avec parfois des débuts d'émeutes ici ou là, à Shanghai notamment, où les gens sont plus retors que dans certaines villes de Chine. À Shanghai, il y a des renforts de la police et de l'armée, hein, qui ont été envoyés sur place. On parle notamment de militaires de la police armée du Shandong, hein, qui est très connu pour être plutôt brutal et fidèle au régime. On peut parler pour la première fois depuis le début de la pandémie ici en Chine d'une vraie vague de contestation, hein, la colère qui monte, et puis il y a un climat social extrêmement tendu. L'ONG China Labour Bulletin qui se trouve à Hong Kong recense les manifestations au quotidien, et elle a recensé depuis le début du mois d'avril une centaine de manifestations déjà dans tout le pays, mais des manifestations inédites, hein. Ce sont des chauffeurs routiers qui ne veulent plus travailler dans ces conditions, ce sont des ouvriers qui n'ont pas été payés ou qui ne peuvent pas travailler puisque les chantiers sont fermés, et il y a même des infirmières à Shanghai qui ont débrayé, ce qui est absolument inédit ici.
Des manifestations inédites dans certains secteurs, parce que placer un quart de la Chine sous cloche, cela veut aussi dire mettre à l'arrêt une grande partie de son économie.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Sébastien, en préparant ce podcast, tu m'as dit que l'économie chinoise était en train de se suicider. Est-ce que l'image n'est pas un peu exagérée?
Non, pas du tout, parce que Shanghai, c'est déjà extrêmement important. Hein, ça représente près de 4% du PIB chinois. Mais si on prend en compte toutes les villes chinoises qui sont confinées, ça représente 40% du PIB du pays. C'est donc absolument énorme. Hein, Shanghai, c'est un centre industriel très important, hein, pour tous les produits finis, mais aussi pour les services de haut niveau, hein, les conseils, les services financiers, hein, puisque c'est la bourse de la Chine. Mais tout ça est à l'arrêt. Et puis aussi, ce qui est très important, ce sont les PME. Hein, les petites entreprises, les commerces en Chine représentent 80% de l'économie chinoise, 80% des emplois, et ce sont des revenus fiscaux aussi très importants. Et ces gens-là, ils ne peuvent plus travailler parfois depuis plusieurs mois. Et comme c'est pas la première fois que ça arrive, puisque ça fait quand même plus de 2 ans que ça dure ici, eh bien beaucoup ont mis la clé sous la porte et eux ne bénéficient d'aucun filet social. Il n'y a pas du tout de quoi qu'il en coûte en Chine, il n'y a aucune aide qui leur est apportée.
Pas de quoi qu'il en coûte, mais les autorités chinoises ont autorisé plus de 600 entreprises de Shanghai à reprendre leur activité ces derniers jours.
Oui, 666 hein, pour être précis. Alors, c'est un nombre qui pourrait faire sourire, mais c'est le chiffre précis des entreprises qui ont été autorisées à rouvrir, des entreprises qualifiées de stratégiques. Par exemple, les entreprises qui assemblent les iPhones, hein, les smartphones d'Apple. Il y a, par exemple, Tesla, hein, ce qu'on appelle la Gigafactory, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, son usine gigantesque. Mais ces usines rouvrent, en fait, avec des capacités réduites. Hein. L'usine de Tesla tourne seulement à la moitié de sa capacité. Il n'y a que 20% des ouvriers qui sont sur place. Puis, en plus, il y a le port de Shanghai, qui est le plus grand port de containers du monde. Hein. Il est totalement saturé, embouteillé. Il y a plus de 120 bateaux au large, hein, qui attendent de pouvoir décharger ou charger leur cargaison. Donc, on estime à peu près que le port de Shanghai fonctionne à moins de 40% de son activité traditionnelle. Le fret ferroviaire aussi n'est qu'à 30%. Donc, beaucoup d'entreprises, en tout cas ceux qu'ils peuvent, notamment tout ce qui est financier, services financiers, est en train de délocaliser à Singapour.
Alors, j'ai laissé filer Cyril et à sa place en studio, j'accueille Philippine Robert, qui est spécialiste de macroéconomie ici à l'Express. Salut Philippine.
Salut Xavier.
Si je t'ai demandé de venir, Philippine, c'est parce que tu as consacré un article aux menaces qui planent sur l'économie chinoise, des menaces au pluriel, parce qu'il n'y a pas que celles liées au Covid que nous a décrites Sébastien.
Oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce coup de grisou conjoncturel lié au Covid, ça arrive sur une économie chinoise qui est déjà malade depuis plusieurs années. On voit que les moteurs de la croissance ne cessent de ralentir, la population vieillit, et surtout la Chine a du mal à faire sa transition, à passer d'un modèle qui est un peu à bout de souffle et tiré par le commerce extérieur, à un modèle qui serait plus tiré par la consommation locale. Alors ça se voit pas encore dans les chiffres. Ceux du premier trimestre sont sortis. Ils n'étaient pas trop mauvais. Il y avait une croissance de 4,8%. Mais ça, c'est un petit peu le calme avant la tempête. Beaucoup de prévisionnistes prévoient un fort ralentissement, voire une récession pour le printemps. Et on voit d'ailleurs que tous les indicateurs sont en train de dégringoler. La consommation, la production, les exportations. Et en plus de cela, on a un autre secteur très important pour l'économie chinoise qui se porte assez mal. C'est le secteur du logement, qui représente près de 30% du PIB. Et on voit depuis plusieurs mois les ventes de logements neufs, les nouvelles constructions qui s'effondrent.
Ah oui, je me souviens, Philippine, on avait évoqué cette crise du logement chinois dans un épisode précédent. Et c'était avant les confinements très stricts.
Oui, alors bien sûr, les confinements très stricts sont venus en rajouter une couche parce qu'évidemment, tu imagines bien que vu le climat, les acheteurs ne se précipitent pas. Mais le secteur est aussi victime d'un des gros excès de la croissance chinoise de ces dernières années. En fait, il y a une gigantesque bulle immobilière qui s'est formée avec beaucoup de spéculation et des entreprises du secteur qui vivent sur un énorme matelas de dettes. Et donc, pour freiner le gonflement de cette bulle, le gouvernement a serré la vis au niveau réglementaire et a également fermé un petit peu le robinet du crédit, ce qui a ralenti tout le secteur. Et également mis en difficulté, vous y avez d'ailleurs consacré un épisode du podcast, le géant de la promotion immobilière Evergrande, dont la faillite a dû être absorbée par le gouvernement. Donc tous ces éléments ont ralenti le secteur et maintenant ce qu'il faut espérer, c'est que cette bulle se dégonfle doucement, ce qui est très loin d'être sûr selon de nombreux experts, car le secteur immobilier chinois est une véritable pyramide de Ponzi avec des relations très opaques entre les promoteurs, les banques et les collectivités locales.
Alors, je vais aller chercher ce fameux épisode dans l'armoire de la loupe parce que Béatrice Mathieu, la chef du service économie de l'Express, y définissait parfaitement ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi.
Alors, en une phrase, une pyramide de Ponzi, c'est un système qui permet de rémunérer des investisseurs avec les fonds qui sont procurés par les nouveaux entrants dans le système. Donc, tant qu'il y a des nouveaux entrants dans le système qui amènent des fonds, qui permettent de rémunérer ceux qui sont déjà là, ça marche bien. Sauf qu'à partir du moment où il n'y a plus de nouveaux entrants, la pyramide s'effondre.
Bon, après l'immobilier, Philippine, j'imagine que tu vas aussi me parler des conséquences de la guerre en Ukraine.
Oui, évidemment. Alors, même si l'impact n'est pas massif pour la Chine, comme le reste du monde, le pays est confronté à la hausse des prix des matières premières et de l'énergie. Donc, ça rajoute une petite pression sur une économie qui n'est déjà pas en très grande forme.
Le reste du monde, justement, Philippines, doit-il craindre l'affaiblissement de la deuxième puissance économique de la planète ?
Alors oui, on a l'habitude de dire en économie que quand la Chine tousse, le monde s'enrhume. Donc, je suis sûre, Xavier, que tu te souviens des conséquences des premiers confinements. Mmh. On en avait parlé lors d'un épisode sur le retour de l'inflation.
C'est vrai.
Ça avait mis le bazar dans le commerce mondial avec les fermetures d'usines, les ports qui étaient congestionnés.
Comme celui de Shanghai dont nous a parlé Sébastien.
Exactement. Et donc là, ça a commencé à aller un tout petit peu mieux en début d'année. Mais la situation en Chine est venue remettre un grain de sable dans la mécanique bien huilée du commerce mondial. Donc on risque de connaître à nouveau des hausses de frais de transport, des délais d'approvisionnement très longs, peut-être même des pénuries. Donc heureusement pour nous, la France ne sera pas le pays le plus touché directement, mais certains de nos partenaires commerciaux les plus importants, comme l'Allemagne, vont être très touchés, donc par ricochet, on va également souffrir de cette situation, qui risque de rajouter encore de l'inflation à l'inflation, de grignoter un peu plus le pouvoir d'achat des ménages, et tu sais à quel point cette question est devenue explosive socialement aujourd'hui. Et puis le ralentissement chinois, ça veut aussi dire moins de demandes de la part de la Chine.
Comment ça, moins de demandes de la part de la Chine ?
Eh bien, on importe beaucoup de produits chinois, mais on exporte aussi des produits en Chine, notamment des produits de luxe, du vin et des spiritueux pour la France, par exemple. Donc les entreprises de ce secteur vont également souffrir du ralentissement chinois. Et c'est la même chose pour tous les autres pays qui vendent à la Chine. Donc résultat, entre la stratégie zéro Covid en Chine et la guerre en Ukraine, notre croissance mondiale devrait baisser. Le FMI vient d'ailleurs de revoir ses prévisions de croissance pour cette année. Donc il y a quelques mois, il pensait encore qu'on allait avoir 4,4% de croissance et aujourd'hui, ils pensent qu'on aura sûrement 3,6% cette année, ce qui n'est pas mirobolant pour une économie mondiale qui essaye tant bien que mal de se remettre des chocs de ces deux dernières années.
De Shanghai confiné à l'économie mondiale grippée. Merci Philippine et Sébastien.
Merci, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Philippine Robert du service économie de l'Express, Cyril Puyette du service Monde et Sébastien Lebelzik, correspondant en Chine. Vous pouvez lire leurs articles en vous abonnant à l'Express. Ça ne coûte que 99 centimes pour 3 mois en ce moment. Et pour retrouver un nouvel épisode de La Loupe tous les matins dès 6h, c'est simple et c'est gratuit. Il suffit de nous suivre sur l'une des plateformes de podcast de votre choix, Spotify, Apple Podcast ou Castbox par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Benveniste, Charlotte Baris, Margot Lanuzel et Raphaël Puyo. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about it.
Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.